civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio AWEVI présentée par Spero Maolé.
N'est-ce que les gens naissent pareil ou pas ?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. AWEVI Info, l'information comme si vous y étiez. All right.
Bien chers auditeurs de AWEVI Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches, bien des choses à vous.
It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel, river running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Si on veut voir les domaines dans lesquels l'Afrique a fait des avancées majeures, on peut citer celui de la création des partis politiques. On est passé, en effet, d'une Afrique dominée majoritairement par le parti unique ou le parti État, au lendemain des indépendances nationales, à un continent où la démocratisation se manifeste désormais par la forte inflation des formations politiques. La République démocratique du Congo compte environ 477 partis politiques, Le Cameroun, 291. Le Sénégal affiche 255. Le Mali, 171. Le Burkina Faso, 113. Et au Togo, en 2020, on comptait environ 118 partis politiques. Des chiffres évidemment à relativiser, car certes, on en crée beaucoup, mais il y en a qui ne restent que de noms, ou alors avec une ou deux personnes en faisant figure de dirigeant, et ça s'arrête là. Des partis politiques avec parfois deux ou trois membres à la fin sont légion sur le continent africain. Nous avons voulu aujourd'hui réfléchir pour voir si cette situation de multiplicité des partis politiques profite à nos États. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs partis politiques est gage de démocratie, est gage de développement, est gage de meilleur fonctionnement des institutions des différentes républiques en Afrique? Nous avons voulu réfléchir à la chose et nous avons invité nos amis de la clinique d'expertise juridique et sociale CEJUS. Nous avons notre ami habituel Tanyami Essosinam. Il est juriste, il est directeur exécutif adjoint, j'ai précisé adjoint, de la clinique. Essosinam, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Bon, maintenant, on ne te présente plus, tu es un habitué de la maison.
Tout à fait.
D'ailleurs, on va envisager un statut de co-animateur. Bienvenue à notre émission. Avec lui, il y a une dame, Youram Abdelli. Elle est étudiante en droit des libertés à l'université de Caen. De Caen ou Caen?
De Caen.
De Caen. Parce que quand on dit Caen, les gens n'arrivent pas à savoir qu'il y a un E. Caen ou Caen? Alors, à l'université de Caen, en Normandie, elle est stagiaire à la clinique. C'est avec nos deux invités de la clinique que nous allons essayer de répondre un peu à quelques questions qui permettront à nos auditeurs, en français toujours très simple et très facile, de comprendre s'il y a intérêt à avoir plusieurs partis politiques dans nos pays. Alors, tout de suite, ma première question qui traîne sur la table et qui veut prendre. Qu'est-ce qu'un parti politique?
Ok, je vais l'apprendre. Comme je suis un habitué de la maison,
absolument,
je vais commencer et puis Youram ne tardera pas à me rejoindre. D'accord. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'un parti politique? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais déjà remercier et saluer l'introduction qui a été faite au sujet. Cela permet de planter le décor et de comprendre un peu l'intérêt de la question des partis politiques en Afrique et particulièrement au Togo également, puisque le Togo se situe dans le même schéma que plusieurs États africains. Nous sommes passés par un régime de parti-État et actuellement nous sommes dans le pluralisme politique qui a été initié à partir des années 90 avec des revendications populaires. Alors, c'est quoi un parti politique? De manière très simple, on peut dire que le parti politique désigne un groupe de personnes qui se retrouvent autour d'une idée politique commun, en association avec l'objectif d'influencer le pouvoir politique, soit en le soutenant ou alors en conquérant le pouvoir et en l'exerçant. Donc, des individus qui ont des mêmes idées politiques et qui travaillent en réalité à implémenter leur à rendre effective, pour parler français facile, leur idée politique au sein de la communauté. En fait, c'est ça l'idée de parti politique.
Je vois quand même des mots-clés. J'ai vu que c'est une association.
Tout à fait.
Ça voudrait dire que ça doit être adhésion libre.
Oui, le parti politique, c'est une association. Donc, en fait, c'est une association seulement. Les associations sont différentes. Il y a des associations à but politique, des associations qui n'ont pas un but politique. Donc, le parti politique est régi en réalité par les principes associatifs.
Et donc, pour être dans un parti politique, il faut adhérer, il faut accepter de rentrer dedans.
oui, et peut-être Yoraba a complété, mais quand, de la même manière, pour les associations, nous avons les membres adhérents et puis nous avons des sympathisants également. Il y en a qui ne sont pas membres formels, qui n'ont pas adhéré selon les procédures d'adhésion fixées par les statuts de l'association du parti, mais qui partagent la vision du parti, donc sont des membres sympathisants.
Nous reviendrons sur la vision, mais Yoram, dites-nous, est-ce que il y a quelque chose qui distingue le sympathisant du militant adhérent? De façon très simple, qu'est-ce qui peut les distinguer?
En fait, c'est une question de formalité. N'importe qui peut être partisan d'un groupe, alors que s'il veut être membre, selon l'association, selon le parti, il faudra remplir un certain nombre de conditions. Mais ça va être propre à chaque parti pour devenir membre. Alors que pour devenir partisan, je peux me dire de n'importe quel parti en tant que partisan sans satisfaire à aucune condition.
Et est-ce que la condition du paiement d'une cotisation pourrait permettre de dissocier les deux ou...
Ça serait ça peut être une condition pour être membre, mais pas pour être partisan. On peut être partisan librement de n'importe quelle idée, de n'importe quel groupe.
Mais est-ce que si c'est une association, est-ce que tous les militants adhérents ont le même rang ou il y a les fondateurs sont prioritaires par rapport aux adhérents?
Alors, en fait, d'après ce que je comprends, enfin, pour revenir sur ce que vous venez de dire, effectivement, en France aussi, les partis politiques, ils sont soumis aux mêmes règles que les associations. Donc, ils sont régis par la loi de 1901 qui régit les associations.
Je pense qu'au Togo aussi, c'est toujours la même loi.
C'est toujours la même loi aussi.
Aussi vieille que ça paraisse, la loi de 1901 est toujours d'application au Togo.
Donc, voilà, donc c'est le même régime que les associations. Et est-ce que vous pouvez répéter votre question? Le reste de la question.
Oui, c'est de savoir si les membres ont le même rang ou les fondateurs sont plus importants que les adhérents simples et les sympathisants.
Ça va dépendre des partis pour moi. Ils sont libres de s'organiser comme ils veulent.
Oui, tout à fait. En fait, a priori, les membres ont les mêmes droits, mais généralement, les membres fondateurs ont certains privilèges que les autres membres n'ont pas forcément. Mais tout cela est fixé en réalité par le statut. C'est le statut qui réglemente tout. Les droits des membres seront déterminés par le statut. Nous parlons de ce qui existe généralement, mais en réalité, pour parler en termes juridiques, les droits dont bénéficient les membres du parti politique, on les retrouve dans le statut qui porte création du parti politique.
Est-ce que généralement les adhérents prennent soin de réclamer ces statuts-là?
Oui, c'est en fonction du niveau d'éducation des populations. D'abord, les gens qui adhèrent à une association doivent être informés, savoir les droits qu'ils ont par rapport à l'association. Normalement, les statuts prévoient que toute personne qui adhère à l'association doit pouvoir avoir les statuts et le règlement intérieur. Maintenant, lorsqu'on donne ces documents aux personnes, il faut qu'ils aient aussi le temps, il faut qu'ils connaissent d'abord l'importance de ces documents, qu'ils aient le temps de les lire pour connaître quels sont leurs droits vis-à-vis de la nouvelle organisation pour pouvoir les revendiquer. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas lui-même ses droits, on peut violer ses droits sans qu'il ne sache qu'on a violé ses droits. Dans ce cas, il ne pourra même pas les réclamer.
Deuxième concept important dans la définition, c'était se regrouper autour d'une idéologie. Est-ce que c'est vrai qu'en Afrique, les gens se regroupent autour d'une idéologie? Est-ce que c'est ça qu'on voit?
C'est...
sur le terrain, pas seulement au Togo, dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Est-ce que vous êtes sûr que les gens se regroupent autour d'une idéologie?
C'est la question intéressante par rapport au contexte dans lequel nous étudions le sujet. Nous sommes partis de l'histoire de l'Afrique pour en arriver là. Voilà, donc au début, nous avons les partis, bon, pas au début, en cours de chemin, nous avons eu des partis État, donc c'est un seul parti politique qui se sont construits au début sur des valeurs, mais qui après ont connu des moments de dérive. Et nous sommes arrivés au pluralisme politique. Alors, lorsque le pluralisme politique est venu, les premiers partis ont essayé de se construire autour des valeurs. Mais fondamentalement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, ou la première idée qui était au cœur des discussions ou au cœur des ambitions du pluralisme politique à leur avènement en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, c'était la question d'alternance démocratique. En fait, c'était ça le véritable challenge. Quand on prend la conférence nationale qui a commencé au Bénin, qui est passée par au Togo, qui est allée dans d'autres pays comme le Mali et autres, le véritable challenge derrière cette revendication du pluralisme politique, c'était de voir des changements de dirigeants à la tête de l'État. Puisque les partis États ont permis de conserver à la tête de l'État les mêmes personnes. Donc, le véritable challenge, ou ce qui était derrière les grandes revendications de pluralisme politique, c'était véritablement ça.
Donc l'idéologie était donc l'alternance.
Oui, l'idéologie. Bon, il n'y avait pas de grandes idéologies. Les partis se sont formés autour des personnes. Surtout, dans la plupart du temps, les partis s'étaient formés autour des personnes qui, a priori, pouvaient facilement conquérir le pouvoir, en fait. Puisque l'idée était de changer les gens à la tête, on avait construit les partis autour de ces personnes dans la société qu'on estimait pouvaient facilement conquérir le pouvoir.
Donc, à proprement dit, ce n'était pas un problème idéologique, c'était plutôt les figures emblématiques qui plutôt attiraient les partis politiques ou créaient les partis politiques.
Tout à fait. Je m'en veux pour preuve que depuis les années 90 jusqu'à récemment, lorsqu'on fait les campagnes politiques, on ne voit pas trop les candidats présenter les programmes politiques. En fait, c'est ça, c'est ces idéologies-là qui se déclinent en programmes politiques pendant les élections qu'on présente aux citoyens et qui permet en réalité de convaincre les citoyens et d'attendre une éventuelle conquête du pouvoir. Mais les campagnes électorales pendant ces moments se sont tablées sur d'autres choses que justement les programmes de société et autres. Donc, la question idéologique était marginale dans la création des partis politiques à l'avènement du pluralisme politique en Afrique.
Je pense qu'en France, dans la plupart des pays européens, c'est beaucoup plus les regroupements par rapport à des idéologies, par rapport à des formes de société qu'on veut obtenir.
Je crois, oui. Je ne pourrais pas l'affirmer. Déjà, je ne suis pas politologue, je tiens à le préciser. Oui. Mais je crois qu'on a quand même plus cette idée de programme politique, même si, tout comme en Afrique, il y a quand même un visage qui représente le parti politique. Et il y a aussi des gens qui vont voter pour quelqu'un plus que pour le programme. Il y a des gens qui ne lisent pas forcément les programmes, qui ne sont pas forcément instruits sur ce sujet. Donc on retrouve quand même un peu ça, peut-être moins, je ne sais pas.
Mais est-ce qu'en France, les gens adhèrent à des partis politiques sans connaître un programme? Est-ce que c'est juste, pas pour voter, pour être membre? Est-ce que c'est souvent comme ça, la tête de celui qui est en tête?
Honnêtement, ça arrive, oui. Je ne pourrais pas le quantifier, mais oui. Il y a certaines personnes qui suivent une personne plus que sans forcément connaître son programme dans le détail.
Et si on n'a pratiquement pas en Afrique de programme, à moins que je me trompe, les partis politiques sont en train de vendre plutôt la tête de quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous avons des populations qui ne sont pas trop portées sur la culture politique?
Oui. Bon, maintenant, c'est ce que nous avions dit. Il faut commencer par... il faut le relativiser un peu, puisque de plus en plus, les partis gagnent, je veux dire, en crédibilité par rapport à leur structuration. Les partis se structurent davantage et puis font l'effort quand même de se vendre autour des idéologies, autour des programmes. Voilà, donc il y a de plus en plus d'efforts sur la question. Peut-être que nous reviendrons dessus pour voir aussi quelques limites dans le pluralisme politique en Afrique. Maintenant, la question que vous posez, elle est très intéressante puisque nous sommes dans, pour la plupart du pays, dans ces pays, les populations sont en majorité analphabètes. Déjà, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de ces programmes politiques, s'il n'y a pas des efforts de les expliquer en langue locale, de décliner ces programmes en langue locale, les gens ne se retrouvent pas, les gens ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle la stratégie aussi qui a été de tabler sur d'autres éléments que sur les questions idéologiques. C'était fondamentalement aussi un peu à cause de ces facteurs. Donc, les gens cherchaient à jouer sur la sensibilité des populations afin pour accéder au pouvoir. Donc, c'est en majorité lié à ce facteur. Les populations sont analphabètes. Maintenant, il faut un grand travail, peut-être nous reviendrons dessus, d'éducation des populations. Il faut que les populations soient instruites, que les populations connaissent leurs droits et surtout connaissent l'enjeu qu'il y a derrière les élections, les questions d'alternance politique et autres. Et puis, les populations pourront mieux réagir parce que c'est en fait la population qui contraint également les partis politiques à s'ajuster. Parce que quand les populations voient que, ou quand les partis politiques voient que sans programme politique, par exemple, ils n'auront pas l'accord ou le vote des populations, ils feront l'effort de toujours s'adapter. Donc il faut accentuer, il faut multiplier l'éducation citoyenne des populations, que les gens comprennent un peu la question politique. Et puis, les partis politiques aussi vont augmenter, vont évoluer en termes de structuration.
Est-ce que cela ne fait pas le jeu des leaders politiques que de laisser la population dans ce flou-là pour se permettre d'être des dirigeants historiques, comme on a l'habitude de voir en Afrique, les Tshisekedi qui ont duré plusieurs années en tant qu'opposants avant de changer de casquette. Enfin, bref, dans tous les pays, il y a toujours 3 ou 4 ou 5 dirigeants qui restent longtemps. Est-ce que ce n'est pas à leur avantage qu'ils cherchent à ce que la population ne joue pas sur les statuts, ne connaissent pas les statuts, ne connaissent pas le programme pour pouvoir changer d'un camp et aller à un autre?
Bon, en fait, ce jeu-là a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque vous allez à une élection et vous n'éduquez pas assez les populations sur des questions citoyennes, vous allez voir, déjà, si nous voulons prendre des exemples basiques, il y en a qui ne savent même pas voter. Donc, vous convainquez les gens à adhérer à votre vision, mais finalement, au moment de voter pour vous, ils votent bulletin nul, par exemple, parce que la personne ne sait pas voter, parce que vous n'avez pas pris le soin de lui apprendre comment il faut voter. Vous avez perdu une voix. Donc, vous voyez, il y a tout ça là qui fait qu'à la fin des élections, les gens se disent qu'ils avaient quand même la masse de population autour d'eux, mais ils ont perdu les élections, c'est pas possible. On crie à la fraude électorale. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude électorale, mais ce que je veux dire, le manque d'éducation citoyenne aussi contribue à perdre les élections parce que les populations, bien qu'adhérent à votre vision, ne savent pas voter. Ils ne comprennent même pas parfois, pour certains, l'importance d'aller voter. Les gens ne font pas leur carte d'électeur, les gens ne vont pas voter. Et puis finalement, bien qu'on ait des masses de population derrière soi, on se retrouve avec des scores minoritaires.
Yoram, est-ce que le fait pour les populations de ne pas véritablement savoir ce pourquoi on vote et comment on vote, est-ce que ça ne va pas sanctionner, par exemple, certains partis politiques? Simplement comme ça.
Oui. En fait, nous, en France, on a plus, on a plus des enjeux liés. C'est-à-dire que les partis politiques en France, elles ont une volonté de. Le public qu'elles visent, c'est les jeunes, les nouveaux votants. Et on a quelque chose qui ressemble beaucoup, qui commence à ressembler aux campagnes électorales américaines, avec du show, des vidéos YouTube, quelque chose de très. Qui se veut très jeune, très accessible, parce qu'il y a une volonté justement de récupérer ses voix. Et on a un petit peu les mêmes enjeux d'éducation, de nécessité d'éduquer les populations, notamment les plus jeunes, mais aussi les autres, sur comment voter correctement, apprendre à lire les programmes. Parce que chez nous, les programmes, ils sont accessibles, mais matériellement, ils sont accessibles, mais intellectuellement, ils peuvent être difficiles à comprendre. Ils sont souvent rédigés assez lourdement, avec des grosses formules, et tout le monde ne les comprend pas forcément. Donc,
On arrive quand même à trouver des gros rassemblements des partis politiques en Europe, surtout en France.
Oui. Non, mais oui, on en retrouve, mais il y a encore beaucoup à faire par rapport à ça.
Aujourd'hui, on distingue, je crois, trois classes, non? Enfin la gauche, la droite et les centristes.
Oui, c'est ça, globalement.
Bon, est-ce qu'ils sont assez proches ou ils ne sont pas très proches les uns des autres?
Je crois qu'en France, il y a de plus en plus un écart. On parle plutôt d'extrême gauche, d'extrême droite. Et le centre, oui.
Donc il y a gauche, extrême gauche, droite, extrême droite.
Oui.
Et le centre.
Mais la gauche et la droite commencent peut-être un peu à disparaître. Et en tout cas, on entend plus parler d'extrême gauche et d'extrême droite.
Une radicalisation du climat politique ?
Peut-être.
Est-ce qu'on arrive à distinguer très facilement les mouvements citoyens des partis politiques en France ?
Oui.
Parce qu'on se rappelle quand même que Macron est venu avec un mouvement citoyen.
Oui.
Avant de devenir un politique. Mm-hmm. Et maintenant, les Gilets jaunes, ils sont venus avec un mouvement citoyen. Est-ce qu'ils sont devenus politiques ou c'est fini ?
Je ne pense pas qu'ils soient devenus politiques. Parce que justement, l'idée, c'était qu'ils étaient apartis, ils n'avaient pas de parti politique. Donc, je ne pense pas. Ou alors ceux qui sont... En plus, ils n'étaient ni de gauche ni de droite. Donc, non, je ne pense pas qu'ils soient...
Est-ce que le fait de conquérir, de vouloir conquérir le pouvoir, qui est spécifique au parti politique, ou ça peut l'être également pour les mouvements citoyens?
Oui, en fait, c'est un peu ça la différence avec les questions de mouvement. Les mouvements, ils ont un but politique, influencer le pouvoir, mais leur objectif n'est pas forcément de conquérir, d'exercer le pouvoir. Contrairement au parti politique, un parti politique, son but essentiel, c'est d'influencer le pouvoir en le conquérant et puis en l'exerçant. Influencer le pouvoir, bon, si le pouvoir est déjà issu de ce même parti politique, son objectif sera de le soutenir. Maintenant, si ce parti politique ce n'est pas lui qui est au pouvoir, il va chercher à l'influencer de manière, à prendre le pouvoir et à l'exercer. Mais par contre, quand on prend les mouvements politiques, ce sont des mouvements qui agissent sur la chose politique sans forcément chercher à exercer le pouvoir.
Est-ce que l'objectif de la conquête des pouvoirs ne constitue pas en lui-même le germe de nos difficultés en Afrique? Est-ce que les partis politiques devraient avoir pour finalité de conquérir le pouvoir ou bien d'aider au développement?
Oui, en fait, la conquête du pouvoir, c'est un élément essentiel qui définit les partis politiques. Sans ça, on est dans le mouvement politique, dans le mouvement citoyen. Maintenant, quant à la question de développement, c'est une question importante. En réalité, le parti politique doit convaincre le citoyen ou les populations en montrant sa capacité à pouvoir aider au développement du pays. C'est en cela, en réalité, que ce parti peut gagner l'électorat, qui lui permettra d'accéder au pouvoir. Si les choses marchaient bien, c'est par rapport à ça, en réalité, qu'on devrait évaluer les politiques. Est-ce que ce parti politique a les compétences nécessaires, s'il accédait au pouvoir, à contribuer au développement du pays par rapport au parti qui est actuellement au pouvoir? En réalité, l'évaluation des partis politiques devait se faire par rapport à cet élément-là. Parce que le droit au développement des citoyens, c'est un élément important consacré d'ailleurs par la plupart des constitutions. Tous les citoyens ont un droit à un développement. Donc, le développement personnel ne peut arriver que lorsqu'il y a un développement global, j'allais dire holistique, un développement du pays. Parce que si le pays n'est pas développé, les structures sanitaires n'existent pas. Votre droit à la santé, par exemple, il est compromis. Vous pouvez aller dans un hôpital, il y a les médecins qui sont compétents pour vous traiter, mais les produits pour vous traiter n'existent pas. Vous allez en souffrir. Par contre, si le développement du pays est suffisant, les citoyens s'en trouvent mieux. Et c'est les partis politiques en démocratie qui contribuent à cela. Soit lorsqu'ils sont au pouvoir ou alors lorsqu'ils sont dans l'opposition. L'opposition ne veut pas dire aussi systématiquement s'opposer à tous les coups à ce qui se fait, mais l'opposition veut dire aussi qu'il faut proposer des alternatives. Et en réalité, c'est par rapport à ça que le peuple peut juger de la capacité à innover du parti de l'opposition et à chercher à le porter au pouvoir. Vous dites que ce qu'on fait, ce n'est pas bien, mais qu'auriez-vous fait si vous étiez là-bas? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec les ressources existantes? Parce qu'on ne peut pas aussi critiquer dans l'abstrait, parce que l'État fonctionne à partir d'un certain nombre de ressources. Si vous avez les ressources que nous avons, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? bon, ils ont les ressources là, ils font ceci. Nous pensons qu'on aurait pu faire ceci, ceci, ceci. Cela aurait contribué mieux à une gestion performancielle des ressources. Donc, le citoyen qui suit ce genre de débat contradictoire entre le parti au pouvoir et le parti de l'opposition comprend qui a les capacités pour mieux gérer le pays.
On reviendra tout à l'heure un peu sur les fonctions, mais je prends quand même une partie de ce que vous venez de dire là. Est-ce que vous croyez qu'on puisse avoir 40, 50 propositions de formules de gestion d'un pays pour une même période donnée? Est-ce que c'est l'idéal?
Non, en fait, déjà il faut tenir compte de la définition des partis politiques. Les partis politiques se définissent déjà par rapport à une idéologie. Et les propositions qui se font, un parti politique qui fait une proposition qui est contraire à son idéologie, c'est un parti politique qui n'est pas sérieux. En réalité, les propositions se font dans la droite ligne de l'idéologie que porte le parti politique.
Je suis d'accord. C'est pour ça que je veux demander si c'est sérieux avec la pléthore des partis politiques que nous avons dans nos pays africains. Est-ce que c'est décent de penser que tous ces partis-là peuvent faire des offres à la population, qui soient des offres qui ne sont pas identiques aux offres des autres, et qui soient des offres qui soient opportunes pour le pays.
Nous reviendrons sans doute sur cela, parce que ça rentre dans les inconvénients de la multiplicité des partis politiques. Mais il faut savoir que la différenciation des noms qu'on donne aux partis politiques ne doit pas perdre de vue qu'en réalité, les idéologies entre les partis politiques, pour plusieurs partis, ne sont pas loin, éloignés l'un des autres. Les partis politiques ont des idéologies qui se rapprochent, mais c'est pour parfois des conflits d'intérêts et des questions de leadership que les gens préfèrent rester chacun dans leur camp, alors que portant les mêmes idéologies, ils pouvaient se mettre ensemble pour essayer d'influencer le pouvoir. Donc quand vous considérez un peu les propositions qui se font, puisque chaque parti et ses propositions doivent rester conformes à ses idéologies, vous voyez que c'est les logiques qui changent, mais l'idée derrière les différentes propositions ne sont pas aussi éloignées que ça, et qu'on peut trouver toujours des formules de synthèse entre les différentes propositions qui se font. L'essentiel d'abord en démocratie, c'est d'écouter tout le monde et puis de faire la synthèse pour arriver à quelque chose de solide. C'est ça en fait l'essence d'une démocratie.
Dans tous les cas, ça nous ferait un grand travail de pouvoir écouter 110 partis politiques, dire 110 choses différentes, et ça va être très difficile. Alors,
il faut vraiment qu'on... C'est pourquoi il y a le Parlement, la représentation au niveau du Parlement.
Oui, nous en venons. C'est justement la question que j'allais poser à Youra. Est-ce que quand vous prenez comment se joue ce jeu-là au niveau du Royaume-Uni, où on voit deux gros partis en face, est-ce que vous pensez que la France ne gagnerait peut-être pas à copier le Royaume-Uni? Ou bien, malgré le système de la France, l'opposition arrive à se faire entendre pour pouvoir exprimer ses offres également aux citoyens?
Je crois qu'il y a en France, ces derniers temps, il y a vraiment une difficulté pour l'opposition à se faire entendre. Je pense qu'on l'a tous vu. Après, est-ce que la France gagnerait à copier le Royaume-Uni? Je ne sais pas, parce que je pense que la politique française avance à sa manière. Et non, je pense que c'est la Constitution normalement garantit l'opposition, garantit la possibilité à l'opposition de se faire entendre. Et si on respecte la Constitution, ça devrait correctement se passer, en principe.
Si la Constitution l'a prévu, est-ce que c'est une question de nombre ou c'est une question de garantir la voix de l'opposition?
Oui, en fait, ce serait compliqué en France. Déjà, en Grande-Bretagne, nous avons une bipartisation de la vie politique, donc c'est deux grands partis. Mais lorsque nous venons en France, c'est une bipolarisation de la vie politique, ça veut dire qu'il y a deux pôles et au sein de ces pôles se trouvent des différents partis politiques. en Grande-Bretagne, où il n'y a que deux partis, deux grands partis en fait, la question du statut de l'opposition ne pose pas assez de problèmes. C'est vrai en France, le statut de l'opposition a été adopté. Mais avoir un chef de file de l'opposition, un leader qui conduit toute l'opposition, ça ne peut pas poser de problème de leadership. Par exemple, en Grande-Bretagne, où le parti, il est déjà unique, c'est son leader qui devient automatiquement le chef de file de l'opposition. Mais lorsque l'opposition est constituée d'une pluralité d'acteurs et qu'il faut le leader pour porter la voix, déjà il peut avoir des déchirures. Donc les systèmes politiques sont un peu différents et puis je crois que conformément à l'histoire de chaque pays, on essaie de construire ce qui garantirait la stabilité. Parce que en fait, nous n'oublions pas, l'un des éléments qui régit la construction des systèmes politiques, c'est d'abord la stabilité. Les partis politiques peuvent tout de suite déstabiliser un pays. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le pays, à cause du fonctionnement des partis politiques, des revendications à gauche et à droite, tout de suite, ça a sombré dans le chaos. Donc, il faut penser stabilité politique, voir ce qui est conforme à son histoire, ce qui peut garantir la stabilité politique et essayer d'y aller. Bon, au Togo, nous avons aussi essayé d'arrimer notre système politique sur ce qui se fait ailleurs en consacrant un statut de l'opposition. Mais nous avons vu aussi comment est-ce que ça fonctionne. Peut-être que la suite de l'émission nous permettra de dire certaines choses.
Ok, mais espérons qu'avec la nouvelle constitution, ce statut de l'opposition est toujours garanti. On ne l'a pas encore lu, et ça c'est clair. Mais avant de souffler un peu, je voudrais quand même demander, est-ce que si on a, par exemple, autant de partis politiques, est-ce que tous ces partis politiques auront l'opportunité de s'exprimer et de se faire entendre par le pouvoir et par la population?
Oui. D'abord, c'est au niveau du Parlement que les partis politiques se font le plus entendre et influencent aussi le pouvoir. Mais les partis politiques ont des droits. Quitte à chaque parti politique de vaquer à ses occupations sur l'étendue du territoire en essayant d'échanger avec les populations. Donc, le contact direct avec les populations constitue un moyen également pour les partis politiques de discuter avec les populations. Mais essentiellement, le dialogue avec le pouvoir se fait au sein des institutions. C'est un dialogue institutionnel, à moins que l'on ouvre une consultation nationale. Là, on consulte aussi bien les partis parlementaires que les partis extra-parlementaires. Mais de manière formelle et selon les règles constitutionnelles, le dialogue parti politique au pouvoir et parti politique qui n'est pas au pouvoir, c'est un dialogue institutionnel qui se déroule au niveau du Parlement avec les mécanismes prévus par la Constitution. Donc, à ce niveau, en fait, chaque parti peut se faire entendre, mais les règles prévues, les règles du jeu ne permettent pas toujours d'écouter les partis minoritaires, puisque en démocratie, c'est la voix de la majorité qui porte. Seulement, les mécanismes-là, les partis minoritaires peuvent toujours les utiliser pour prendre le peuple à témoin de ce qui se passe au niveau du Parlement.
Nous allons souffler juste quelques secondes en musique avant de revenir à notre question essentielle.
Wally Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
Nous sommes toujours à l'heure de civisme et droits du citoyen. Nous sommes en train de réfléchir sur l'opportunité de la multiplicité des partis politiques dans nos pays africains, sous le regard ou sous le prisme de ce qui se fait dans les pays européens. Donc nous avons notre ami de tous les jours, Tanyami Sosinam, qui est avec nous. Nous avons à ses côtés Yoram Abdelli, qui est française, je suppose.
Oui.
Oui. Et donc elle est française. Elle est étudiante à l'université en Normandie. Elle est là avec nous pour réfléchir ensemble sur la question. Les deux sont au niveau de la clinique d'expertise juridique et sociale, c'est juste. Alors, ma question, est-ce qu'il y a une différence entre multipartisme et système multipartite?
En fait, les deux, c'est la même chose. Le multipartisme conduit au système multipartite. Le multipartisme, c'est la reconnaissance textuelle de la possibilité pour chaque individu de pouvoir créer, ou chaque groupe de personnes de pouvoir créer un parti. Le multipartisme, donc, fait la promotion de la création des la libre création des partis politiques. Or, quand il y a la libre création des partis politiques, le système politique, finalement, est animé par une pluralité de partis politiques. Donc, on aboutit à un système multipartite. Donc, le multipartisme, c'est la promotion par les normes fondamentales de la libre création des partis politiques. Et quand il y a libre création des partis politiques, le système politique maintenant est animé par une pluralité de partis politiques. Donc le système politique est pluriel. On dit système multipartite. Le système multipartite s'oppose au système à parti unique. Donc c'est parce que les textes interdisent la libre création des partis politiques qu'on n'a qu'un seul parti politique, que finalement le système politique est un système à parti unique. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est la même chose, sauf que c'est l'un qui conduit à l'autre.
Je sais que Yoram n'est pas politologue, mais elle est obligée en tant que juriste de fouiller un peu au niveau de ce qui est politique. Est-ce qu'avec le développement qu'on voit en Chine, est-ce que si tu étais par exemple... Tu avais le droit de décider pour la France. Est-ce que ce serait encore utile de rester dans le multipartisme en France ou on va prendre le système unique de la Chine pour avancer?
Ah non, moi j'espère qu'on va garder le multipartisme, c'est important quand même.
En quoi?
Bah, ça permet de faire entendre toutes les voix, il y a une idée de démocratie. Pour moi, c'est un des fondements de la démocratie représentative. Et je ne me vois pas vivre dans un pays où on ne respecterait pas un principe aussi important.
Donc, le multipartisme fait plus respecter la démocratie que le parti unique?
Selon moi, oui.
Directeur exécutif adjoint.
Oui, il faut... c'est des débats qui sont posés dans la société. Développement, système politique... Et aujourd'hui, la question des droits de l'homme. Faut-il privilégier la croissance économique à la protection des droits de l'homme ou il faut arrimer la croissance économique à la question des droits de l'homme? Je crois qu'au niveau des démocraties libérales, les théories concilient la croissance économique et la protection des droits de l'homme. Alors qu'au niveau de l'Asie, ce n'est pas la Chine seule. Donc, c'est toute une doctrine, l'asiatisme, qui fait prévaloir la croissance économique sur les questions des droits de l'homme. Donc, il faut faire passer le développement, la croissance, les questions de croissance économique, quitte à violer les droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est un impératif. Il faut se développer. Mais si le développement va passer par les violations des droits de l'homme, pourquoi pas? Alors qu'au niveau de l'Europe, la conception est autre. Notre problème en Afrique, c'est que nous sommes tirés entre les deux, entre ces deux logiques. Nous avons des tests qui sont bons qui se rapproche de la conception européenne, c'est-à-dire des tests qui sont très protecteurs des droits humains, mais nous avons des pratiques qui sont éloignées des tests et qui se rapprochent plus des doctrines dont nous parlons de l'asiatisme, c'est-à-dire négateurs des droits humains. Pour pouvoir se développer en Afrique, nous devons pouvoir trouver juste milieu, c'est-à-dire que ce mélange-là ne nous arrange pas. Nous devons quand même pouvoir avoir une conception de nos sociétés qui nous conduit au développement. Parce que là, nous n'avons pas, en fait, l'Afrique est comme n'ayant pas de repères sur ces questions de développement, de droits de l'homme et autres. Nous agissons en fonction des propositions qui nous sont faites. Je m'excuse, cela peut offusquer, mais les États africains, lorsqu'il y a de l'aide au développement tout de suite, ils essaient de s'ajuster aux conditions de l'aide au développement. Donc, il n'y a pas de repère qui oriente nos politiques publiques. Maintenant, faut-il y aller avec le parti unique? Faut-il aller avec le pluralisme politique? Actuellement, nous avons opté pour le pluralisme politique. Essayons de rationaliser ce pluralisme politique pour voir comment est-ce qu'il nous conduit au développement. Nous avions eu une expérience avec le parti unique qui n'a pas porté ses fruits, puisque le début du parti unique au Togo n'était pas non plus aussi
négatif que ça.
Comme nous l'avions dit en propos introductif, le parti État était construit sur des valeurs approuvées par tous. C'était des valeurs auxquelles les gens adhéraient, mais ce système a connu des dérives. Et c'est ce qui a amené les revendications en faveur du pluralisme politique. Maintenant que nous y sommes, essayons de rationaliser la chose, de faire en sorte que ce pluralisme-là ne puisse pas avoir les mêmes résultats que le système à parti unique, mais construisons ce système de manière à nous conduire vers le développement.
Nous avons eu pratiquement 30 ans avec le parti unique, nous avons eu pratiquement 20 ans, 25 ans avec le multipartisme. Si on doit faire le point, quels sont les avantages de ce multipartisme-là qu'on peut mettre, par exemple, en avant pour demander à tout un chacun de réfléchir avant de chercher à revenir à un parti unique?
D'abord, je veux dire que nous avons eu un multipartisme qui est devenu un multipartisme débridé. En fait, c'est quoi? C'est un multipartisme dont on n'avait plus le contrôle. Le multipartisme, pour dire ce qui se dit pour d'autres choses, le multipartisme peut tuer le multipartisme. Pourquoi? Parce que nous avons eu une multiplication excessive. Je vais donner un exemple pour voir en quoi est-ce que le multipartisme peut fausser le jeu démocratique. Lorsque nous allons à une élection, comme l'élection que nous avons eue récemment, et que nous avons un parti suffisamment constitué qui est assez important, qui a une base électorale importante, et puis nous avons des partis qui sont également relativement importants, mais qui n'ont pas assez d'importance. Lorsque vous allez à de telles élections et que les voix ou les partis sont dispersés, vous voyez que cela permet de disperser l'électorat face à certains partis qui ont un électorat acquis. Finalement, le jeu électoral ne sera pas égalitaire. Cela va fausser le jeu démocratique. Donc, le multipartisme, oui, mais le multipartisme débridé fausse le jeu électoral. Et comme les partis, leur rôle ou leur but, c'est soit conquérir le pouvoir ou soit l'exercer, vous imaginez que moi j'ai le pouvoir, que je suis au pouvoir et que nous allons aux élections. Ma stratégie peut être de disperser l'électorat des partis en face. Je fais quoi? Je crée moi-même des partis politiques qui vont disperser leur électorat et moi je gagne les élections. Donc ce sont des stratégies politiques également, donc qui peuvent naître de ce multipartisme qui finalement vont tuer le multipartisme en réalité.
Oui, mais est-ce que en dehors de ce problème-là, de cette situation, est-ce qu'on a quand même des avantages certains avec le multipartisme?
Des avantages, oui. Le multipartisme permet la confrontation des idées. Vous voyez, comme le dit un philosophe, de la confrontation vérité-vérité, il en résulte une vérité meilleure. Lorsque vous réunissez, vous discutez en réalité, vous allez arriver à une idée meilleure. Mais pour que cela soit ainsi, il faudrait que les discussions se fassent autour d'une notion importante dans une démocratie, pour que cette démocratie-là puisse être au service des populations. Cette notion, c'est la notion d'intérêt général. Tant que cette notion-là ne sera pas au cœur des débats, eh bien, vous n'arriverez jamais à cette vérité consolidée. Le problème que nous avons en Afrique, c'est parce que les discussions se font autour des intérêts partisans, des intérêts personnels. C'est la raison pour laquelle le pluralisme a connu, est en train de connaître un échec, parce que nous sommes en train de parler avec une eau d'espoir qu'il y aura une renaissance dans ce pluralisme politique. Donc, il faut que l'intérêt général soit réinvité dans le terrain politique, que les débats se fassent autour de la notion d'intérêt général. Les peuples ont souvent été oubliés, marginalisés dans le débat politique africain. C'est la raison pour laquelle nous avons connu des instabilités politiques et puis des situations qui sont déplorables pour nos continents, pour nos pays.
Yoram, est-ce qu'il est possible d'envisager une France sans opposition?
Non.
Non? Non. Pas du tout?
Non. Pour moi, non. Le français s'oppose, discute. Je ne vois pas la France avec un seul parti, personnellement.
Oui, mais si, à partir du moment où, à un moment donné, avec le mouvement La France en marche,
oui.
À un moment donné, on a vu que beaucoup de personnes ont viré pour aller dans ce mouvement-là.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas envisageable, cette hypothèse-là, où quelqu'un va venir encore avec une très belle idée, tout le monde va suivre et puis il n'y aura plus d'opposition?
Tout est imaginable après, mais... Après, je rejoins ce qui vient d'être dit par rapport au multipartisme débridé. On a eu un peu aussi ce problème aux dernières élections, notamment avec les partis de gauche, puisqu'on avait plusieurs petits partis de gauche, et ça a fait que la gauche n'est pas passée au pouvoir. Mais de là à souhaiter un parti unique, je crois qu'en France, on n'en est pas là, en tout cas.
Alors, je reviens à notre ami. Mais est-ce que s'il n'y a plus d'opposition, est-ce que le pouvoir doit souhaiter avoir une opposition? Je parle pas du Togo, pas en général. Est-ce que si dans un pays, finalement, tout le monde converge, est-ce qu'il est utile de souhaiter une opposition?
En démocratie, en tout cas au XXe siècle, c'est ça. Comme le disait un grand constitutionnaliste français, la démocratie au XXe siècle, c'est ça. C'est un exécutif qui s'appuie sur... la nation et qui est contrôlée par une opposition. La nation, il veut parler, bien évidemment, du Parlement, puisque dans les démocraties contemporaines, les populations sont représentées par le Parlement. Ils ont des représentants au niveau du Parlement. En fait, ce contrôle-là, ce contrôle, parce que vous ne pouvez pas exercer le pouvoir et vous contrôler vous-même. Le contrôle qui, en réalité, doit être un contrôle objectif, permet au pouvoir de se rendre compte qu'il est en train d'aller à la dérive et qu'il doit se ressaisir vite. Vous savez, dans les théories anciennes, s'il faut parler des Montesquieu, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à la séparation des pouvoirs? La logique, c'est que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Lorsque vous avez le pouvoir, vous êtes porté tout de suite à en abuser. Donc, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est vrai, ces séparations, c'était entre l'exécutif et le Parlement, mais nous avons vu que dans certains régimes, cette séparation s'est déplacée entre la majorité et la minorité, parce que quand nous prenons un régime parlementaire, finalement, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Donc, difficile pour la majorité parlementaire de faire un contrôle objectif sur l'exécutif, sur le gouvernement. Donc, il faut une minorité pour faire ce contrôle objectif, et c'est l'opposition, finalement, qui joue ce rôle. Donc, c'est vrai qu'un parti qui n'a pas d'opposition, a priori, ne souhaiterait pas en avoir. Mais dans un régime démocratique, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir une opposition dont le rôle n'est pas de s'opposer de manière systématique au pouvoir, mais dont le rôle est de contrôler. Il faut utiliser le terme contrôler parce que c'est plus objectif, c'est plus constructif et ça rime plus avec l'esprit démocratique. Donc, contrôler et en termes d'opposition, le pouvoir. Donc, c'est très souhaitable.
Alors, si on doit rester dans notre question de départ, si on doit choisir, à peu près combien de partis politiques seraient utiles pour le pays ? La question, elle est un peu bête, mais je pense que, en notre français facile, combien de partis politiques vous pensez qu'on peut avoir en Afrique par pays pour qu'on soit à l'aise ?
On peut avoir autant de partis qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'il y ait une rationalisation du système politique. Et la rationalisation du système politique s'est faite dans des pays à partir du mode de scrutin qui a obligé les partis à se regrouper. C'est la raison pour laquelle dans certains pays, on est à la bipartisation parce que le système oblige à rester à ces grands partis parce que les petits partis savent que même s'ils naissaient, ils n'auraient aucune chance face aux grands partis. Ou alors à aller à la bipolarisation parce que les petits partis savent que à eux seuls, ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, ils se réunissent par lien d'affinité entre leur idéologie, donc par rapprochement d'idéologie dans des pôles. Finalement, on en arrive à une bipolarisation. Le jeu se fait d'abord dans les pôles et puis entre les pôles, c'est-à-dire qu'au sein des pôles, les gens font le jeu démocratique pour voir quels sont les partis qui seront à la tête du pôle. Et finalement, le jeu se fait également entre les deux pôles au plan national pour pouvoir avoir un système politique équilibré. Donc, en réalité, la question n'est pas le nombre de partis politiques, mais comment est-ce qu'on fait pour rationaliser le système politique ? Et nous devons commencer par réfléchir à ces choses. Maintenant, quand on parle de partis politiques, cela nécessite aussi de l'argent. Bon, j'étais encore jeune quand je suivais une fois la télé, on posait la question à un responsable de parti politique, mais on ne vous voit pas souvent. Il dit que vous savez, les élections, ça coûte cher. Et quand nous finissons les élections, bon, il faut attendre d'autres élections. Mais la politique, c'est ça en fait. Ça donne de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas venir dire des choses comme ça à la télé. Moi, j'étais jeune. Mais ça m'a fait surpris. Vous imaginez, jeune que j'étais, je suivais la télé. Puis, bon, moi, j'étais un peu choqué d'entendre les responsables de partis politiques dire. Donc, nous devons comprendre un peu ce que nous faisons, comprendre ce que c'est qu'un parti politique. Lorsque nous nous engageons, nous devons nous engager en connaissance de cause. Et puis, nous devons laisser également les intérêts partisans. Et savoir, s'il le faut, se réunir et puis maintenant se réunir de manière raisonnable, donc pour pouvoir jouer le jeu politique.
Se réunir de manière raisonnable, Yoram, je sais que le mot liberté sonne différemment dans vos oreilles. Est-ce que vouloir un nombre restreint de parti politique ne serait pas contraire à la liberté des gens à s'épanouir dans des associations ?
Pour moi, si. Oui. Enfin, en tout cas, en France, on a quand même cette idée. Enfin, le pluralisme, il est garanti par la Constitution. Je pense qu'on y est très attaché. Je ne connais pas de pays dans lequel tout le monde pense de la même façon. Donc, en tout cas, en France, on est très divisé. Il y a plein de gens qui pensent différemment et chacun doit pouvoir se faire entendre. Donc, pour moi, le pluralisme, ça reste une bonne chose malgré les critiques qu'on peut faire. Et je vous rejoins notamment sur les partis dits coquilles vides, en fait, où il n'y a pas vraiment de programme. Et justement, ça peut rentrer dans des manipulations politiques pour disperser. Mais pour moi, c'est moins. Dans la balance, c'est moins grave que.
D'avoir peu de partis
politiques.
Ok. Avoir beaucoup de partis politiques, c'est la meilleure manifestation de la liberté d'expression, de la liberté d'association. Mais il ne faut pas créer des partis politiques juste pour le plaisir de les créer. Il faut que ça soit fonctionnel, que ça soit utile, que ça soit pour le contrôle de l'action publique, que ça soit pour le développement de nos pays. Avis est donc lancé à tout le monde de chercher à voir quelle sauce il faut fabriquer pour nos pays africains pour que les partis politiques soient plus bénéfiques que nuisibles. Civisme et droits du citoyen pour aujourd'hui, c'est bien fini. Malheureusement, le temps est toujours derrière les hommes. Nous nous promettons de nous retrouver la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine séance.